Good Evening Business. Guillaume Paul.
Il est 18h, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs, 18h-20h. Dans l'actualité ce soir, Elisabeth Borne qui a donc passé quelques heures à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz, pour évoquer plein de dossiers, l'énergie notamment. C'était la dernière étape de ce qu'on a appelé la semaine rabibochage franco-allemande. Est-ce que des choses ont avancé entre les deux parties? On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Sinon, alors ce vendredi, je vous apprendrai rien, c'est le Black Friday édition 2022, une édition un petit peu ternie, bien sûr, par l'inflation, avec des commerces notamment qui essayent de refaire surface, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, ont toujours beaucoup de mal, passé le Covid. On verra ça dans un petit quart d'heure. Et puis, alors, eux aussi ont du mal à tenir le choc, ce sont les vignerons. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ça se passe ce week-end, Porte de Versailles à Paris, le Salon des vignerons indépendants. Et ça va mal, vous avez une exploitation sur trois qui est menacée de disparition à cause des aléas climatiques, à cause de l'inflation, à cause des PGE à rembourser. Le président des vignerons indépendants viendra nous en parler tout à l'heure à 18h10 sur BFM Business. Voilà le programme, 18h30 le grand débat, 19h les pionniers chez Fred Mazella. C'est parti jusqu'à 20h sur BFM Business. Donc Elisabeth Borne qui était à Berlin aujourd'hui, point d'orgue d'une grande semaine de rencontres ministérielles franco-allemandes. Le couple franco-allemand qui doit en théorie être uni face à la crise énergétique, face au plan anti-inflation américain. Est-ce que ce couple a annoncé des choses aujourd'hui? Écoutez Elisabeth Borne qui nous dit que ça avance globalement.
Nos deux pays, la France et l'Allemagne, endossent une responsabilité historique. Si nous avons dû prendre la décision ensemble de reporter de quelques semaines la réunion du Conseil des ministres franco-allemand, c'est que nous souhaitions nous donner le temps de travailler à une réponse à la hauteur des défis face à nous. Nous avançons, je dirais même que nous avançons bien.
Voilà, nous avançons bien, a dit tout à l'heure Elisabeth Borne aux côtés d'Olaf Scholz. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Elle le dit, ça avance. Est-ce que dans l'absolu, il y a eu des avancées aujourd'hui entre les Français et les Allemands, finalement?
Une avancée, accord. Le chancelier et la première ministre ont signé, c'était il y a quelques minutes, un accord de solidarité énergétique qui engage la France et l'Allemagne à coopérer plus étroitement en termes d'approvisionnement en énergie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un, pour le gaz. La France s'engage à poursuivre sa fourniture de gaz à l'Allemagne. Elle le fait déjà, depuis le 14 octobre, jusqu'à 100 gigawatts par jour. Elle va poursuivre. Et puis la nouveauté, c'est que les deux pays s'engagent aussi désormais, en tout cas si c'est nécessaire, à se fournir l'un l'autre du GNL à partir de l'année prochaine, parce qu'on le sait, en réponse à la crise russe, la France et l'Allemagne développent de plus en plus de capacités autour du GNL. Pour ce qui est de l'électricité, là c'est l'Allemagne qui s'engage à en fournir à la France, là aussi c'est quelque chose qui existe déjà, mais plus rapidement que prévu, puisqu'elle fournit d'ores et déjà des quantités supérieures d'électricité qui n'étaient prévues qu'à partir de l'année prochaine. Et enfin, les deux pays s'engagent à coopérer plus étroitement dans l'hydrogène. On sait que les deux pays ont beaucoup de projets autour de ça. À sortir plus rapidement des énergies fossiles tout en respectant leur mix énergétique respectif. Là aussi, on sait bien qu'évidemment, en France et en Allemagne, les mix ne sont pas du tout les mêmes. En revanche, pas d'accord aujourd'hui autour des prix de l'énergie. Oui. On sait bien, on en parle depuis hier et pas que depuis hier, que les deux pays sont en profond désaccord sur le sujet. Pas d'annonce non plus sur la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act. Les deux pays poursuivent leur travail. Avec en ligne de mire quand même, le prochain gros rendez-vous, c'est le Conseil des ministres franco-allemands qui a déjà été repoussé deux fois et qui devrait se tenir autour du 22 janvier, date anniversaire des 60 ans du traité de l'Elysée. Mais là aussi, même là, cette date-là n'a pas été confirmée aujourd'hui.
Bon, il y a donc cet accord d'approvisionnement, histoire de partir bredouille finalement.
Exactement, de grandir quand même un accord.
Absolument.
Mais beaucoup de chemin reste à parcourir.
Merci beaucoup Thomas, Thomas Asportas. À noter une fausse note quand même aujourd'hui, il se trouve que tout à l'heure Elisabeth Borne, donc à Berlin, a annoncé concernant le fameux dossier du SCAF, avion de combat européen. Elle avait annoncé qu'un accord avait enfin été trouvé entre Airbus et Dassault sur le partage des tâches. Vous savez que c'est notamment ceux qui bloquaient depuis un an, sauf que quelques minutes plus tard, un porte-parole de Dassault a formellement démenti la conclusion d'un accord. « Ça n'est pas fait », a-t-il déclaré. Vous savez qu'il y a quelques jours déjà, c'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, qui avait démenti des annonces faites en ce sens par le gouvernement allemand. 18h04, concernant toujours les prix de l'électricité, il y a la grosse colère en France des industriels de la propreté. À cause de quoi? À cause d'un vote récent au Sénat concernant les prix auxquels l'électricité qu'ils produisent par incinérateur serait désormais rémunérée. Un vote passé inaperçu et qui risquait de leur faire perdre beaucoup d'argent. La patronne de Veolia a vu Bruno Le Maire aujourd'hui pour essayer de régler le problème. On voit tout ça avec Mathieu Pechberti.
Les industriels de l'environnement sont pour une fois tous unis contre le gouvernement. Veolia à Suez ou encore Paprec ont envoyé une missive à la Première Ministre pour s'insurger contre un amendement voté au Sénat il y a une semaine. Il fixe un plafond de prix très bas de 60 euros pour l'électricité produite par une centaine d'incinérateurs de déchets en France. Du coup, les industriels risquent de perdre de l'argent alors que leurs coûts ont beaucoup augmenté. Pourtant, le gouvernement avait fait voter début octobre à l'Assemblée nationale un plafond de prix de 180 euros, comme pour les éoliennes et les panneaux solaires. Ce changement de pied au Sénat s'apparente plus à une boulette, selon un industriel. Le ministère de la Transition énergétique reconnaît avoir découvert cet amendement après son vote. Et à Bercy, on assure qu'on ne veut pas punir ces industriels, mais on insiste sur la nécessité de prélever une contribution à la crise énergétique pour financer les aides de l'État.
Voilà, si le sujet vous intéresse, vous avez toutes les infos de Mathieu Pechberti sur notre site internet bfmbusiness.com. Deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, en France, des nouvelles de l'affaire H2O. L'autorité des marchés financiers a requis une amende de 93 millions d'euros à l'encontre de la société londonienne et de ses deux fondateurs. H2O, dont Natixis est toujours actionnaire, est accusé par les autorités boursières de ne pas avoir respecté certaines règles destinées à protéger l'intérêt des investisseurs. Et puis c'était attendu, il y a grève aujourd'hui chez Amazon. À l'occasion du Black Friday, bien sûr, dans une trentaine de pays à travers le monde, mouvement lancé par le collectif Make Amazon Pay, qui réclame des hausses de salaire et qui réclame que le groupe mette fin à l'optimisation fiscale. On en reparlera tout à l'heure dans le grand débat entre 18h30 et 19h sur BFM Business. 18h06 en attendant, on va sur les marchés.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Les marchés, on retrouve Aude Kerzulec depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, une toute petite hausse. Bonsoir. Pour terminer la semaine à Paris.
Oui, c'est ça, plus 0,08% sur le CAC 40. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est le bilan de la semaine. On prend 1% ici à Paris. Et c'est notre huitième semaine de hausse d'affilée. C'est quand même une belle série qui n'était pas arrivée depuis bien longtemps. Et puis, on a surtout récupéré cette semaine les 6700 points. On clôture ce soir bien au-dessus, 6712 points. Alors, sur la séance, c'est vrai qu'on n'a pas eu de surprise. Une séance très stable du côté de Wall Street. Wall Street qui est ouvert juste pour une demi-séance et qui va clôturer dans une heure. On évolue en ordre dispersé, il ne se passe pas grand-chose. On a eu très très peu de volume aujourd'hui du côté des valeurs, d'ailleurs très peu de changements sur le CAC 40. Les valeurs industrielles plutôt à la hausse et les valeurs de croissance à la baisse, alors qu'on a un regain de tension sur les marchés obligataires. Elior aussi qui rebaisse un peu après sa belle progression des deux derniers jours, moins 5,8%, alors que des négociations sont en cours pour un rapprochement avec De Richbourg. Et puis sur le marché suisse, et surtout Crédit Suisse en pleine restructuration, en pleine augmentation de capital, qui chute fortement de pratiquement 6%, qui est à son plus bas historique. La banque Helvète, qui a encore beaucoup à faire pour rassurer les investisseurs. Voilà donc stabilité sur les indices européens. Le CAC ce soir à 6712 points.
Merci beaucoup Aude. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance en ce moment. On a un Dow Jones qui progresse de 0,5%, 34 370 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,4%, 11 240 points. Tout ça à la mi-séance. 18h08, je vous disais, à consommer avec modération, comme on dit. Mais si vous êtes sur Paris ce week-end, voilà une idée sortie. Vous pouvez aller faire un tour au salon des vignerons indépendants, histoire de faire quelques emplettes ou de remplir votre cave. Pourquoi pas, ça se passe du côté de la porte de Versailles. Jean-Marie Fabre est avec nous pour en parler quelques instants. Bonsoir, monsieur Fabre.
Bonsoir.
Vous êtes président des vignerons indépendants de France. 800 exposants, 130 000 visiteurs attendus, beaucoup de monde. Mais profession qui va mal. Une entreprise viticole sur trois, vous dites aujourd'hui, est menacée de disparition. Le Covid, les aléas climatiques, l'inflation, les PGE, les difficultés d'approvisionnement, est-ce que la profession va si mal que ça aujourd'hui, monsieur Fabre?
Bon, en tout cas, par l'ensemble des effets que des différentes crises, cette profession a été fragilisée. Nos entreprises sont aujourd'hui face à ces difficultés, et aujourd'hui ces difficultés sont aggravées par les coûts de l'inflation.
Je rappelle, c'est 600-700 000 personnes en France qui travaillent dans ce secteur.
Alors c'est une entreprise du CAC 40 en fait, la troisième, le secteur viticole, c'est à la fois 700 000 emplois, ouais, directs et indirects au cœur des territoires. C'est une entreprise qui pèse 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui génère 15 milliards d'euros d'excédent brut commercial.
Le deuxième après l'aéronautique.
C'est le deuxième après l'aéronautique et en France, je pense qu'il faut être fier de ces fleurons.
Oui.
Le secteur viticole est un fleuron de l'économie française. Il faut maintenant aujourd'hui prendre conscience qu'elle a été fragilisée par 3 ans Covid, crise géopolitique et aujourd'hui cette inflation. Et il est donc important d'être très attentif à sa consolidation, à sa pérennisation.
Inflation, engrais, produits phytosanitaires, verre, carton, l'inflation elle est partout. Ça représente 20% du prix d'une bouteille. Ça ronge toutes les marges aujourd'hui des
exportations. Ça a complètement rongé toutes les marges. Et pour ceux qui n'ont pas pu encore passer des augmentations, on est en train de vendre à perte. Oui, effectivement, en 4 mois, passer de 0 à 20% de marge brute consommée, c'est du jamais vu.
Non, mais sauf que vous dites on peut pas augmenter le prix, on peut pas faire passer cette hausse au prix.
Alors on va pouvoir en faire, et heureusement.
Oui.
Mais passer de 2% ou 3% comme une année normale à 20%, ça sera pas possible.
Ouais.
Et en fonction de son réseau de distribution, il y a déjà des appels d'offres qui ont été passés.
Ouais.
Et donc il est important d'arriver à expliquer pourquoi on en est là et surtout à ce que la clientèle puisse accepter de jouer aussi son rôle de solidarité, parce que cette fragilité aujourd'hui, si on n'est pas en capacité de la tamponner, forcément dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est un tiers des entreprises qui aujourd'hui sont fragilisées qui risquent d'abandonner ce métier. N'oublions pas que ces entreprises, elles sont présentes dans les 20 000 communes de France, dans les 66 départements français, et au-delà du rôle et du poids économique qu'elles jouent à l'international, c'est aussi un rôle économique au cœur de nos territoires.
Il y a des aides gouvernementales qui ne sont pas calibrés pour vous. On a annoncé il y a quelques semaines un bouclier tarifaire pour les TPE de plus de 10 salariés. Est-ce que ça répond à vos problèmes ou pas du tout aujourd'hui?
En partie, le ministre de l'Agriculture vient de passer
4
heures sur le salon aujourd'hui.
Ouais.
On a eu l'occasion d'évoquer tout ça. Il y a un bouclier tarifaire avec plusieurs styles de dispositifs qu'on salue parce qu'il a permis de répondre en partie à ces difficultés. La vraie difficulté, par contre, c'est que la hausse de l'énergie, on ne l'a pas directement et que directement dans nos entreprises sur le coût de l'énergie que l'on consomme, mais c'est le coût de l'énergie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui est la nôtre. Le verre, les capsules, le carton, qui sont aujourd'hui produits en dehors de France et qui nous sont livrés parfois avec des augmentations de 20 à 130%. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, d'assumer, et qu'il va falloir de même pouvoir accompagner.
Et qu'est-ce que vous dit le ministre par rapport à ça? Il a évoqué de possibles aides supplémentaires, des aides ciblées pour la profession ou pas?
Alors oui, bien sûr, il y a des propositions qui seront sur la table.
Oui.
Première nature de proposition, c'est comment on peut stabiliser à un moment donné ces trésoreries qui souffrent.
Oui.
Est-ce qu'on peut pas avoir des décalages bancaires?
Pour le PGE.
Notamment pour le PGE.
Pas les seuls, évidemment.
Exactement, mais qu'on avait nous constituer au moment de la crise Covid parce qu'il fallait faire face à nos charges, qu'on n'a pas pu mettre notre personnel en chômage technique et partiel parce que le vivant n'attend pas. Et aujourd'hui, il y a une seconde, je pense, levier d'action, c'est aussi une capacité à aller développer des parts de marché. Il faudrait que l'année 2023 soit une année, j'allais presque dire, de cause nationale de conquête de parts de marché. C'est un secteur qui a ses parts de croissance à l'export, c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on soit opérationnel.
Mais qui a besoin d'être accompagné.
Et qui aura besoin d'être accompagné parce qu'on n'aura pas les moyens financiers, nous, de pouvoir aller mettre à la fois sur l'amortissement, à la fois sur les charges et à la fois sur l'accroissement de la conquête des parts de marché. Il faut que la diplomatie française, il faut que l'État français mobilise des moyens colossaux pour sauver un de ses fleurons dans la capacité qu'elle peut avoir aujourd'hui à ne pas répondre aux exigences de l'exportation.
En quelques secondes, ça nous dit quoi sur ce à quoi pourrait ressembler la profession demain, au-delà éventuellement des pertes d'emplois et de la qualité du vin français finalement? Pour vous, tout ça va jouer à un moment donné?
Ça peut jouer, je pense que la qualité non, parce que
la qualité non.
Le millésime 2022
est un
millésime hors norme en termes de qualité. Non, je pense que ça peut jouer sur l'emploi.
Mais à l'échelle de quelques années, cette nouvelle donne finalement.
Exactement, cette nouvelle donne à la fois climatique finalement, environnementale et économique avec l'ensemble des perturbations que ça a, peut venir faire bouger un peu l'échiquier. Il faut que ces TPE, ces PME artisanales ancrées au cœur des territoires, mais qui ne sont pas qu'un lien culture, patrimoine et gastronomie, mais qui sont une vraie force économique, puissent passer le cap. Et si elles passent le cap, moi je suis confiant, vous savez, on a des jeunes vignerons qui croient dans ce métier, on a des gens qui investissent dans des carrières professionnelles pour venir à la fois accomplir ce métier avec passion.
C'est aussi justement trouver la relève, voilà, trouver celles et ceux qui...
Eh bien justement, on a un métier qui est fait de passion, qui est fait à la fois de culture, de marketing, de commerce et d'exportation, et c'est vers ces gens-là qui ont cette foi, qui croient au développement de ce métier, qu'il faut aujourd'hui miser. Et eux, par contre, ils ont besoin aujourd'hui d'un vrai signal, d'un vrai coup de pouce. Et je pense qu'il faut qu'on soit à la hauteur, et l'État en particulier, de la capacité à venir soutenir un de ses tout premiers secteurs stratégiques.
Eh ben, on peut vous donner un coup de pouce en venant vous voir ce week-end du côté de la porte de Versailles.
Exactement. 800 vignerons indépendants qui font partager leur passion, leur émotion, et en même temps qui procurent du plaisir.
C'est tout le week-end, apparemment, exactement, porte de Versailles. Merci beaucoup, monsieur Fabre. Jean-Marie Fabre, le président des vignerons indépendants de France. Merci beaucoup d'être passé nous voir quelques minutes ce soir sur BFM Business, et bon courage. 18h13, on marque une petite pause. Le Black Friday, c'est aujourd'hui, c'était la Black Week, vous savez comment on appelle ça aujourd'hui, édition sous l'ombre de l'inflation bien sûr, sauf qu'apparemment les Français ont quand même le moral, envie de consommer. On va raconter tout ça dans un instant, à tout de suite.
Good evening business sur BFM Business.
Allez, 18h17 sur BFM Business, on parle donc de ce Black Friday édition 2022, un peu terni quand même par l'inflation. On va en parler avec nos invités, Johan Petiot qui est avec nous. Bonsoir monsieur Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce qui représente les grands magasins et enseignes de la mode. On va voir un petit peu avec vous ce qui se passe cette journée de vendredi. Vous étiez en magasin, vous nous raconterez ça dans un instant. Et puis on va être au téléphone également avec Émilie Benoît-Vernet. Bonsoir madame, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes responsable Europe du Sud de Shopify, le fournisseur de solutions de commerce que nous connaissons bien à BFM Business. Et alors, vous avez publié une étude à l'occasion de ce Black Friday qui nous dit quoi ? Que 57% des Français ont l'intention de dépenser autant pour le Black Friday cette année que l'an dernier. Je vais vous dire, c'est une majorité, c'est pas une majorité non plus écrasante. Qu'est-ce que ça traduit ce phénomène pour vous, ce chiffre, Madame Benoît-Vernet ?
Ben, je pense que ce chiffre, il s'explique aussi selon un petit peu les typologies de consommateurs, parce que sur le segment des 18-24 ans, on monte à 74%. Je pense que les nouvelles générations, elles ont quand même une appétence pour ces périodes commerciales.
Oui.
D'autant plus avec les difficultés économiques et l'inflation. C'est aussi l'opportunité d'anticiper sur des cadeaux de Noël et d'avoir accès à des produits de meilleure qualité ou de plus beaux produits en prenant le pas de ces périodes commerciales.
Les promotions, elles sont toujours aussi marquées autant que les autres années en proportion par rapport à ce qu'on a pu connaître.
Oui, de manière générale, même si on voit beaucoup de marques indépendantes aussi prendre le pas du Black Friday pour engager un peu un dialogue avec leurs consommateurs et en proposant des réductions, peut-être pas des moins 70, moins 80%, mais plutôt du moins 25, moins 30, et aussi un dialogue avec la marque, des cadeaux. Il y a des marques qui reversent aussi à des associations les bénéfices de ce Black Friday. Donc on voit que ça sert aussi un lien communautaire entre le marchand et ses acheteurs.
Est-ce que vous dites, alors quels sont les produits privilégiés, parce que c'est aussi une question que vous avez posée, 34% des achats c'est la mode, les produits électroniques, donc téléviseurs, ordinateurs, 28%. Donc c'est la mode quand même effectivement qu'on va chercher prioritairement à l'occasion de ce Black Friday. Johan Petiot, vous me disiez, j'étais en magasin ce matin. Comment vous l'avez senti cette édition 2022 du Black Friday, vous?
Il y avait du monde, donc j'espère que ça sera une édition 2022. C'est la 10e édition du
Black
Friday
déjà.
Cette année. J'espère qu'elle sera bonne, parce que c'est vrai qu'on a connu un début de saison, en tout cas dans le secteur de l'habillement, plutôt décevant, avec un mois d'octobre, on s'en souvient, avec des températures extrêmement élevées pour le mois et qui n'encourageaient pas du tout les Français à acheter des vêtements chauds. Et une crise des carburants aussi au mois d'octobre, il faut s'en souvenir aussi, qui a pénalisé les achats, les Français préférant rester chez eux ou conserver l'essence pour d'autres choses qu'aller faire leurs achats. Donc, nous, cette période-là, de novembre-décembre, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. C'est une période essentielle.
Pour les commerçants, du prêt-à-porter.
Pour les commerçants de prêt-à-porter, habillement chaussures, c'est de l'ordre de 20% de notre activité.
Et ça a toujours été ça, même avant l'existence de l'arrivée du Black Friday, c'était toujours 20% sur cette période.
Oui, bien sûr, une moyenne à quelques pourcentages près. On est toujours sur les mêmes pourcentages. Ce qui est vrai, le Black Friday a plutôt pour effet de concentrer les achats sur cette période promotionnel, et donc on a toujours un effet un peu attentiste sur le début du mois de novembre, justement pour cette période promotionnelle.
Alors vous le disiez, on aura les chiffres définitifs des ventes seulement en début de semaine prochaine. Non, ce que vous dites effectivement, c'est que c'est un enjeu très important pour des commerçants qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas tourné la page du Covid fondamentalement, et qui ont ensuite pris de plein fouet la crise ukrainienne. Comment est-ce que vont les commerces aujourd'hui fondamentalement?
Écoutez,
je répète, 170 000 salariés des enseignes du prêt-à-porter en France, c'est 170 000 personnes.
C'est ça, et 27 000 magasins en France, dans l'équipement de la personne. Écoutez, ces entreprises-là, elles font quand même preuve depuis 4 ans d'une résilience exceptionnelle. Elles ont connu les gilets jaunes, la réforme des retraites, la crise Covid qui a duré 2 ans avec 7 mois de fermeture pour certains, et depuis le mois de mars, en effet, vous l'avez dit, la crise en Ukraine qui a un effet à la fois sur la consommation, il y a un pouvoir d'achat qui est extrêmement contraint aujourd'hui et qui va peut-être inciter les Français à se tourner vers le Black Friday, et puis la crise de l'énergie qui touche aussi notre secteur et pour lequel nos entreprises sont aujourd'hui assez peu aidées par les aides du gouvernement.
Vous dites qu'il n'y a pas d'aide aujourd'hui, fondamentalement.
Non, le gouvernement, pour l'instant, a des aides plutôt ciblées sur les TPE-PME, quel que soit le secteur. Par contre, pour les ETI et les grandes entreprises, il faut, les aides sont aujourd'hui plutôt réservées au secteur industriel. Et donc, nous, les enseignes, les commerçants en réseau.
Vous dites que ce sont les grands oubliés, les commerçants aujourd'hui.
Les ETI aujourd'hui du commerce sont les grands oubliés des aides du gouvernement sur l'énergie.
La question des loyers, par exemple, elle n'est pas réglée depuis tous ces mois aujourd'hui encore
pour les. Alors, elle n'est pas réglée. On a eu le traitement des loyers pendant la crise Covid. Et il faut savoir que le loyer, ça représente la principale charge de nos commerçants.
20-25%
physique, c'est ça, jusqu'à 20% pour ceux qui ont le plus élevé. Et ce loyer, il évolue de manière très très dynamique sous l'effet de l'inflation, et donc c'est une charge qui pèse pèse très fortement et encore plus demain sur l'activité de nos commerçants, alors qu'une part des ventes partent sur Internet. Aujourd'hui, c'est 20% de notre marché qui est sur Internet. Ouais. Et quand on a 20% de notre activité en ligne, on ne peut pas payer le même poids de charges de loyer et de charges immobilières. Or, on a un indice qui évolue encore extrêmement vite. Et donc, nous disons aux bailleurs, ouvrons des discussions, parlez avec vos locataires pour plafonner cette évolution des loyers, comme le gouvernement a accepté de le faire au mois de juillet pour les TPE et les PME.
Mais est-ce que vous dites vous-même, les commerces, finalement, les petits commerces sont assez résilients, alors qu'il y a encore un an et demi, au moment du Covid, on nous disait, mais ça va être une véritable saignée, ne serait-ce que sur la question du loyer. Qu'est-ce qui fait que finalement, les petits commerces de proximité tiennent finalement.
Alors, c'est que ce soit des petits commerces, même des grands commerces, c'est vrai.
Je veux dire, ça n'a pas été la saignée que certains que vous-même vous prévoyez
c'est
peut-être.
C'est vrai, vous avez raison, parce que durant la crise Covid, on a connu une période un peu suspendue sous l'effet des aides de l'État, de l'activité partielle, de l'aide coût fixe, de l'aide loyer. Ouais. Il faut bien le reconnaître, l'État a été au rendez-vous, même si ça n'a pas tout compensé. Il y a une grosse part de la perte qui a été assumée par les entreprises. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle crise, la crise de l'inflation sur tous les coûts que l'on connaît, le transport maritime. Il a atteint en début d'année des sommets avec une transport maritime en provenance d'Asie à plus de 10 000 dollars le container. Aujourd'hui, on est revenu à 5 000 environ, mais avant la crise, c'était en dessous de 2 000 dollars. La parité euro-dollar, aujourd'hui, avec un dollar qui vaut aussi fort que l'euro, ça veut dire un renchérissement des achats pour les entreprises de l'ordre de 20%. Et maintenant, le coût de l'énergie, vous l'avez dit, qui pèse effectivement très lourd sur les budgets de nos entreprises.
Donc, nouvelle menace pour les petits commerces. Je reviens à vous, Émilie Benoît-Vernet, pour Shopify, pour parler un petit peu, alors, achat durable, parce que, bon, vous savez, toutes les critiques qui sont associées, bien sûr, au Black Friday, le jour, la journée noire pour la planète, certains disent. Vous dites que 65% des consommateurs français déclarent faire leurs achats de manière durable. Et vous nous dites que la France est plutôt bien placée de ce point de vue-là. C'est vrai, ça, madame Vernet-Petit?
Tout à fait. Du coup, nous, dans le cadre de notre étude où on a interrogé 12 pays, Amérique du Nord, Asie et Europe occidentale, la France était en première place sur le sujet de la prise de conscience environnementale. Ouais. C'est non seulement pour ce Black Friday, 65% envisagent de faire des achats plus durables, mais ils ont aussi envie de poursuivre cet effort en 2023. Donc concrètement, ça revient un peu à ce que je disais, l'envie d'aller acheter chez des marchands qui leur proposent, dont la proposition de valeur va au-delà du prix. C'est-à-dire qu'il y a une conscience derrière, il y a une éthique. On voit des marchands comme Isé, la marque de lingerie, ou Opilo, ou encore Engarde, une marque d'espadrille, qui ont tous des dispositifs de recycling, upcycling. Et ça engage les consommateurs dans une démarche plus durable, où ils peuvent même ensuite renvoyer leurs achats ensuite. Hein, tout est une économie plus circulaire, on va dire.
Vous confirmez ça, Johan Petiot, que vraiment dans cette ferveur d'achat de quelques jours, on pense à la planète malgré tout, mais vraiment. Hein,
oui. Non, mais rien n'empêche de penser à la fois une consommation responsable à un prix accessible. Mmh. Et d'ailleurs, le vrai succès de ce qui fera qu'on aura une consommation responsable pour tous, c'est qu'elle restera accessible au plus grand nombre. Il ne faut pas oublier le contexte que l'on connaît,
bien sûr.
Un pouvoir d'achat extrêmement contraint. Donc, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les consommateurs de leurs achats. Je pense qu'ils font au mieux. Et d'ailleurs. Notre ministre du Commerce aujourd'hui a beaucoup plaidé dans les échos pour un affichage environnemental. Ouais. Les marques de vêtements sont aujourd'hui très engagées sur ça. Il y a des expérimentations très fortes qui sont en cours. C'est 100 marques qui ont testé une méthode d'affichage environnemental sur 500 produits et qui vont y retravailler en 2023. Et en principe, en 2024, nous aurons un système d'affichage environnemental sur les produits habillement et chaussures pour justement essayer de guider les achats faits par les consommateurs.
Et ben voilà, les Français qui continuent d'acheter pendant le Black Friday, qui achètent durable, sont les mieux notés en la matière du côté de l'Europe. Merci infiniment, Émilie Benoît-Vernet. Merci d'avoir été avec nous, responsable Europe du Sud de Shopify, de nous avoir donné ces chiffres ce soir. Merci beaucoup, Johan Petiot, d'être venu nous voir, directeur général de l'Agence du Commerce.
Beaucoup.
Merci à vous. Et donc, on aura les chiffres lundi de vente. Et puis, on espère que ce sera une bonne dynamique pour les commerçants qui en ont tellement besoin après deux années difficiles. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. 18h27, on marque une petite pause. Le rappel des titres dans un instant, puis le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business. Elisabeth Borne à Berlin, petite annonce pour sauver la face aujourd'hui. On reparlera des prix du gaz, toujours pas d'accord européen. Puis on reparlera de ce Black Friday justement. Journée noire pour la planète, disent certains. Tout ça jusqu'à 19h. À tout de suite.
Evening Business, le débat.
Avec nos invités, je vous les présente. François Monbois, c'est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue, président de la FEVA, de la Fédération de la Vente à Distance. Pierre-Henri de Menton, bonsoir Pierre-Henri, bonsoir. Directeur de la rédaction de Challenge. Et puis Frédéric Farac est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Économiste, chercheur, enseignant à Panthéon-Sorbonne. Madame Borne donc était à Berlin cet après-midi. Point d'orgue de cette semaine de rabibochage franco-allemand. On espérait peut-être des annonces, peut-être un début de réponse au plan anti-inflation américain. On en parlera dans un instant. Non, on a eu juste un petit accord d'approvisionnement sur l'énergie franco-allemand. On va écouter Elisabeth Borne qui nous dit que oui, ça avance entre les Français et les Allemands. Écoutez, la ministre.
Nos deux pays, la France et l'Allemagne, endossent une responsabilité historique. Si nous avons dû prendre la décision ensemble de reporter de quelques semaines la réunion du Conseil des ministres franco-allemand, c'est que nous souhaitions nous donner le temps de travailler à une réponse à la hauteur des défis face à nous. Nous avançons, je dirais même que nous avançons bien.
Donc on avance bien, sauf que l'accord en question, c'est que la France va livrer du gaz à l'Allemagne, ce qu'elle fait déjà, et l'Allemagne va livrer plus vite que prévu de l'électricité à la France. Voilà ce qu'on a annoncé aujourd'hui pour sauver la face, finalement, c'est ça, François, entre les Allemands et les Français.
Oui, parce qu'il y a l'électricité, c'est très compliqué. Il y a la distribution, tu as le fait d'en avoir. Jusqu'à présent, on pensait que c'était évident, parce qu'on n'avait jamais eu de blackout. Maintenant, ça devient un sujet. Possible. Donc c'est ça dont on parle, et comme vous l'avez dit, on continue ce qui a déjà été décidé. Et puis, il y a le prix. Ce qui met les entreprises en ce moment en risque de faillite, mais vraiment sévère, c'est le prix de l'électricité qui est indexé sur le gaz en Europe. Mmh. C'est ça que la France veut changer, l'Allemagne ne veut pas. Et là-dessus, il y a un blocage et je ne vois pas comment on va sortir de ce blocage. Parce que l'Allemagne a vraiment beaucoup plus besoin de gaz que la France.
Bien sûr.
Donc la France est prête à caper le prix du gaz. Bon, s'il y a un peu moins de gaz, ce n'est pas très grave. Pour l'Allemagne, c'est absolument vital. Et l'Allemagne compte plus visiblement sur sa force de négociation seule. Scholz est allé seul voir Trudeau pour négocier du GNL.
Il était partout.
Un accord avec le Qatar
avec
seul.
Le Qatar, ouais.
Et ils se débrouillent seuls en pensant que la puissance allemande peut mieux négocier que si c'est un Bulgare ou un Hongrois qui va négocier pour l'Europe.
Vous voyez un rabibochage à travers cette annonce. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien.
Pierre-Henri. Il y a un bel exercice de langue de bois, effectivement. L'intention de le faire, il y a beaucoup de réunions ministérielles.
Bruno Le Maire a fait un communiqué commun hier avec son homologue. Mais il n'y a rien. Effectivement, on attendait quelque chose. Vous savez qu'Emmanuel Macron va dans quelques jours aux États-Unis.
Bien sûr.
Charles Michel, le président du Conseil européen, va à Pékin. On attendait une position commune sur des sujets. Ces sujets-là sont vitaux, mais effectivement, il n'y a rien de vraiment nouveau. Mais par exemple, sur une contre-offensive de l'Europe, sur le plan de relance américain, qui a quand même des relents protectionnistes très forts. Il y a des intérêts communs franco-allemands, là, qui auraient pu être négociés. C'était peut-être pas le bon timing ni le bon niveau. Et effectivement, on a l'impression que ça continue à patouiller.
Le bon timing, le bon niveau, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que la France et l'Allemagne qui ont des intérêts communs, ce sont eux qui vont porter une éventuelle riposte européenne sur le sujet. Si c'est pas le bon timing, si c'est pas les bons interlocuteurs...
Après, c'est une affaire de couple. Il y a des trucs qui vont pas. Effectivement, il y a eu cet accord sur le SCAF, vous savez, le futur chasseur bombardier européen.
Il y a eu aussi une fausse note, il faut raconter quand même ce qui s'est passé.
Donc la ministre de la Défense allemande a annoncé un accord, alors qu'il y avait quand même une des parties prenantes qui est Dassault qui ne l'avait pas signé.
Vous avez vu ce qui s'est passé donc cet après-midi, Elisabeth Borne qui annonce un accord enfin entre Dassault et Airbus sur le sujet, et quelques minutes plus tard seulement, c'est un porte-parole de Dassault qui dit non, ça n'est pas fait.
J'ai entendu le patron de Dassault, Trappier.
Trappier, il y a quelques jours, déjà, qui avait dit...
On veut garder la maîtrise de ce projet, puisque c'est nous qui portons... Il y a quand même une décision derrière, on ne reparle pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Rafales qui portent la bombe atomique, c'est la France qui décide. Si on fait un avion franco-allemand, qui va décider de l'arme atomique? On ne parle pas, mais c'est quand même un sujet assez majeur.
Bon. Toute désireuse d'annoncer de bonnes nouvelles, Elisabeth Borne a fait une annonce à peu
Le couple franco-allemand n'existe qu'ici, Il faut écouter, il y a une interview de Steinmeier il y a 15 jours, en gros, qui dit l'Allemagne est le pays central de l'Europe, il faut nous assumer, il n'y a pas un mot sur la France. La France, c'est la Pologne de l'Ouest, quoi. C'est un autre pays.
Frédéric
En fait, si vous voulez, c'est toujours la confusion, parce que d'un côté, on dit, il faut que la question se règle au niveau européen. Alors là, les Européens sont réunis il y a peu, là, et ils ont dit, on n'arrive pas à s'entendre, on reporte en décembre. Vous
avez vu, 13 décembre.
13 décembre. Donc, bon, il n'en est rien sorti. Les Polonais ont dit de cette affaire, c'était une plaisanterie. Bon. Alors, on ne comprend plus quel est le bon niveau. On essaie de régler ça en bilatéral. Ensuite, après, on essaie de trouver une solution en Europe. C'est-à-dire que, d'un côté, la réunion européenne ne fonctionne pas. Ensuite, les Allemands essayent, avec les Français, de s'entendre, ce qui n'arrive plus dans plus grand-chose, d'ailleurs. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? C'est-à-dire qu'à tous les échelons, c'est la cacophonie, en fait. Et donc, en fait, l'Europe n'a pas de direction. Elle n'a pas de direction par le couple franco-allemand. Elle n'a pas de direction au niveau du Conseil ou de la Commission.
Déjà du temps de Kissinger, je vous dirais, mais enfin après...
Voilà. Non, mais c'est-à-dire, en fait, c'est un vieux problème. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on redécouvre quelque chose qui n'arrête pas de se produire. Et en fait, où on a cru que l'hirondelle faisait le printemps, c'est parce que c'était avec l'histoire du Covid. On a dit, oh là là, on est
en train... Il y a eu la guerre en Ukraine, quand même. Voilà. Il y a eu quelques semaines où il y a eu une sorte de regain
l'union
européen
sacrée,
absolument
extraordinaire. Ça n'a pas... Je ne dis pas qu'il s'agit de cracher sur ce qui existe, mais disons que ça n'a pas duré longtemps. Mmh. Et très vite, pourquoi ils ne peuvent pas porter quelque chose en commun ? Parce qu'ils ont des bouquets énergétiques qui ne sont pas les mêmes, ils sont dans des dépendances qui ne sont pas les mêmes, ils sont dans des structures industrielles qui ne sont pas les mêmes. Et en même temps, il ne faut jamais oublier aussi une chose, que face aux grands du monde, que ce soit les États-Unis ou la Chine, les Européens n'y vont pas ensemble dans cette compétition, parce que comme ils veulent les mêmes marchés, ils font compétition entre eux, plus qu'avec la Chine et les États-Unis. Donc c'est-à-dire, structurellement, comme l'Europe est une zone hétérogène économiquement, et que certains poussent plus pour le libre-échange, parce que pour l'Allemagne, ben, toute sa structure, c'est d'être tournée vers les exportations. Nous, c'est de soutenir notre demande interne. Les plus petits pays, comme la Hollande, qui est un pays exportateur, ben, pour lui, le libre-échange, c'est hyper important. Donc, en fait, à chacune des crises majeures, surtout lorsqu'elles touchent le nerf de la vie économique, c'est-à-dire l'énergie, on voit bien que nous sommes pris sur des trajectoires qui sont très différentes, et que pour trouver un intérêt commun européen, il en existe que de manière provisoire, ponctuelle, et toujours au bout de compromis. Et je me souviens très bien, comment dire, de ce que disait cet économiste qui a tant compté pour moi, qui est Jean-Paul Fitoussi, qui disait, dans les années 90, à force de compromis en Europe, on en perd le dessin. Et je trouve que cette phrase de Fitoussi, dites il y a plus d'une vingtaine d'années, est très juste. On multiplie les compromis, mais en fait, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, et en fait, on est dans un bateau ivre de la mondialisation, et aujourd'hui, trouver des points communs, à part effectivement ce bel exercice de langue de bois magnifique, auquel on est droit, ou de langue de caoutchouc, comme on préférera.
Alors, dans la langue de bois, il y a cet accord, et hier, cette proposition de Bruxelles sur le plafonnement du gaz, absolument grand guignolesque,
oui,
qui a fait hurler tout le monde, Pierre, il faut quand même en dire un mot, parce que ça a quand même été...
Donc en deux mots, c'était l'idée de plafonner le prix de marché. Déjà, c'est plafonner un prix de marché, c'est compliqué. Avec un prix donc de 275 euros le mégawattheure.
Ouais. Pendant deux semaines. Deux semaines de
au
suite.
Pire du pire de la crise, on était, je crois, à 130.
Oui.
Donc, je sais pas, là, c'est...
Non, mais ça n'est jamais arrivé.
Ça n'est jamais arrivé.
À 275 euros,
donc, effectivement, certains gouvernants l'ont très mal pris.
Les Espagnols,
le Polonais, etc. Et ce qui est embêtant, c'est que ça a aussi bloqué d'autres sujets sur lesquels on aurait pu se mettre d'accord, qui sont des trucs de bon sens, comme de faire des achats groupés, par exemple. Hein. Ouais. Donc, ça a bloqué aussi ça. Il y avait aussi une discussion sur les énergies renouvelables qui, du coup... a été aussi coincé. Donc, effectivement, on est un peu sidéré de cette proposition où on y va, mais là, c'était une vraie fausse proposition pour faire plaisir à je ne sais qui. Et le résultat, c'est que ça a été...
Pour faire plaisir aux Allemands.
C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que pour faire un compromis, on a essayé de mettre ensemble deux propositions diamétralement opposées et ça aboutit à un canard boiteux. L'Allemagne, ce que je disais tout à l'heure, a besoin de gaz, quel que soit le prix. Et la France refuse de le payer au-dessus d'un certain
nombre. Mais d'ailleurs, dans l'accord, si je peux me permettre, dans l'accord, quand vous regardez dans le projet d'accord, il y avait la possibilité de négocier quand même hors marché de gré à gré. Oui. Donc, c'est, de toute façon, ce n'était même pas un accord de plafonnement.
Non.
Donc, un plafonnement où on peut quand même acheter de gré à gré. Donc, les Allemands avaient toujours la possibilité d'acheter à 300 euros aux Russes.
Partant du principe, comme vous dites, que les Allemands ont besoin de gaz, quoi qu'il arrive, comment on va sortir de cette histoire, finalement ?
Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que... pour l'instant, chaque jour qui passe fait que les entreprises françaises sont vraiment en difficulté énorme. Et il va y avoir des faillites. Et les investissements seront plus facilement aux États-Unis qu'en France,
oui,
en Europe, non seulement à cause du plan américain, mais aussi le coût de l'énergie.
Oui.
Un industriel aujourd'hui qui fait un business plan avec un coût de l'énergie en France, en Europe, il ne sait pas quel prix il doit mettre.
Et justement, ce plan Biden contre l'inflation. Quelle riposte européenne quand vous commencez à entendre Emmanuel Macron parler de Buy European Act? Vous dites que c'est crédible? Bah, il faut ça se met sur pied chose. En l'espace de quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait?
Je ne sais pas, mais là, c'est dommage que Scholz et Borne n'aient pas pu avancer là-dessus, parce qu'effectivement, il faudrait faire quelque chose. Parce qu'il y a déjà le prix de l'énergie qui défavorise l'Europe, donc si en plus il y a un plan d'aide américain, là les
mais
donc pourquoi on n'avance pas sur cette riposte? On nous annonce depuis le début de la semaine.
Je ne suis pas dans le secret des dieux, ou presque, enfin pas moi, je ne suis pas presque dieu, mais enfin bref, je ne suis pas dans le secret de cette visite d'État, mais il est certain que c'est les Américains quand même qui payent à 75% ou 80% le soutien à l'Ukraine. Donc je pense que ça, les Américains vont nous dire, bon ok, mais vous n'allez pas en plus nous mettre des trucs protectionnistes en Europe. Donc il y a un deal qui est en train de se négocier, et c'est sûr que c'est pas Elisabeth Borne qui va pouvoir régler ça avec Scholz là aujourd'hui.
Elle est de quel ordre la riposte européenne au Bayer voilà. Inflation Reduction Act de Joe Biden là. Macron va la semaine prochaine aux États-Unis, on le rappelle. Donc
Oui. Parce que aussi, on se fournit aussi du gaz de ce côté-là et qui nous coûte très cher. Bon, ben, bref, donc, mais ce que je veux dire par là, en fait, les choix européens qui ont été faits, c'est ça l'histoire d'une crise. La crise, c'est quelque chose qui allume un projecteur sur la manière dont on a pensé l'économie à une époque. Et en fait, c'est un côté très rétrospectif. Et en fait, on se rend compte, lors d'une crise, que tous les problèmes qui avaient été un peu mis sous le tapis, avec lesquels on gérait, et qui ne semblaient pas être une urgence, une crise les ramène devant nous. L'Europe n'a jamais su se penser comme une politique, comme une puissance industrielle avec un sens stratégique. Elle ne s'est jamais pensée comme un acteur stratégique. Elle a été tellement obsédée par ce qu'elle a créé à partir de 86, c'est-à-dire de faire de la concurrence l'alpha et l'oméga, comment dire, de son droit. Et que se penser comme des acteurs stratégiques ou imaginer des champions européens, tout ça n'avait pas été ni dans sa culture, ni dans ses pratiques. Le protectionnisme est totalement quelque chose qui lui est étranger. L'Europe a passé son temps à faire des méga accords discutables avec le Vietnam, avec Singapour, avec le Japon, avec les uns et les autres, dont les évaluations restent à faire, même parce que ce sont des accords récents ou en cours. Ça coince avec le Mercosur, etc. Donc, on n'a jamais su. Et finalement, du jour au lendemain, on se dit, tiens, la façon dont on a pensé le monde n'était pas la bonne, parce que qu'est-ce qu'on a fabriqué? Par un marché d'électricité mal pensé, on s'est retrouvé ultra vulnérable. Par une politique de la concurrence obsessionnelle, on s'est rendu compte que dans la mondialisation, on ne devenait pas un acteur stratégique. Par le fait qu'on n'a pas su défendre une Europe de la défense, on s'est retrouvé complètement sous le parapluie américain, plus que jamais. Et on a fait ça. Et en pensant que finalement, avec beaucoup d'imprévision, parce que, avec d'imprévoyance, pardonnez-moi, on s'est dit, oh, finalement, ben, grosso modo, ça va quand même avancer l'affaire. Et là, dans la panique, ben, chacun essaye de faire entendre la musique qui est la sienne. Mais il y a tellement d'années d'inertie, il y a tellement de choses qui n'ont pas été conduites de manière satisfaisante, que du jour au lendemain, dans le feu de l'action, on va créer un intérêt commun. Mais où il est? Et en fait, si vous voulez, c'est l'arlésienne. On court après. Et on ne peut pas juste se contenter de petites victoires d'ici de là pour dire « Oh, bientôt, ça ira ». Mais c'est quand, bientôt?
Alors, Pierre-Henri, je voyais que Pierre-Henri tiquait un petit peu.
Non, mais vous êtes très, très, très euro-pessimiste. Hein. On a quand même construit des choses. Le niveau de vie en Europe, il est quand même pas effroyable. Donc, et c'est quand même en grande partie grâce à l'Union européenne et cette façon, effectivement, de cette espèce d'empire qui ne veut pas donner son nom, mais donc effectivement on n'a pas cette même volonté que peuvent avoir les Chinois ou les Américains, mais on a construit quand même des choses comme la monnaie unique entre autres, voilà. Mais là, c'est là où je suis assez d'accord, c'est que c'est dans les crises, c'est un révélateur absolument
d'ordinaire,
incroyable, en fait, ça. Et il faut se remettre quelques mois en arrière. Après l'invasion de l'Ukraine, on a été à deux doigts, c'est les Allemands qui ont bloqué, mais ils ont failli craquer, de faire un embargo sur le gaz russe. Et en fait, c'est toujours facile à dire, hein, nous, on dépend beaucoup moins de ça qu'eux, mais on aurait fait un embargo sur le gaz russe, on n'en serait sans doute pas là, et les Russes, ils seraient sans doute, les réserves de change russes seraient sans doute pas ce qu'elles sont, et la guerre serait peut-être même finie. S'il y a plus d'argent, donc voilà. Mais là, on a fait effectivement des grands pas en arrière sur cette question énergétique.
Oh, faut-il croire encore à l'Europe dans ce débat, François, pour conclure là-dessus?
Je sais pas, on va pas conclure, mais je pense que l'électricité est vraiment un échec de l'Europe. D'abord parce que c'est pas un marché. Oui. C'est quelque chose de très spécial, l'électricité. Les consommateurs comme les entreprises ont besoin d'un cours fixe.
Oui.
Ils ont pas besoin d'un prix. Enfin, elles peuvent pas vivre avec un prix de l'électricité qui varie tout le temps. Donc, il faut agir sur le marché. C'est des investissements très longs. C'est pas possible.
Cet épisode laissera des traces. On marque une petite pause. 18h47. On va parler du Black Friday. Voilà, c'était la fièvre acheteuse. Alors pas qu'aujourd'hui, cette semaine, bien sûr. Vous nous direz comment vous regardez tout ça, bien sûr. À tout de suite. On revient dans une grosse minute sur BFM Business. 18h50, la deuxième partie du débat sur BFM Business avec Pierre-Henri de Menton, avec François Monboise, avec Frédéric Farah. Donc, le Black Friday. Alors oui, on rappelait, ça se passe aussi dans les magasins, bien sûr, mais ça se passe aussi sur Internet. Qu'est-ce que vous voyez de beau depuis ce matin, vous, François?
C'est un peu tôt pour savoir, mais comme vous l'avez dit, c'est vraiment pas que Internet dans le Black Friday. En écoutant les publicités, il y a les vendeurs de voitures qui font du Black Friday, j'ai reçu un mail SNCF sur du Black Friday. C'est un nom de code pour dire promotion, quoi.
Donc, ouais.
Sur Internet, nous, on a fait des études, c'est essentiellement une anticipation des achats de Noël.
C'est ça.
Les gens morcellent.
Plus cette année que les autres années?
Comme les autres années. C'est les deux tiers des gens disent c'est d'abord pour achats de Noël. Et après, voir s'il y a des promotions. L'état du pouvoir d'achat des gens est tel que les gens cherchent vraiment de bonnes affaires. Sinon, on n'est pas dans la surconsommation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il n'y a pas eu de critique du Black Friday. Moi, j'avais l'habitude d'être...
Les ONG, toujours.
J'étais invité d'habitude avec des gens d'attaque qui hurlaient. On a même eu Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a 3 ans, en 2019, avait dit qu'il ne fallait pas acheter pendant le Black Friday.
C'est vrai,
c'est quand même fort.
C'est vrai. Ça.
Alors que 2 mois plus tard, c'est les soldes, il faut acheter pendant les soldes. Enfin, on est un pays. Autant on parlait de l'électricité, c'est pas un marché, autant pour vendre des produits, les distributeurs, il faut de la libre concurrence. Donc les commerçants font des promotions, c'est logique. Et puis la conscience écologique est là chez les gens.
Ouais.
On a fait une étude avec Harris, il y a la moitié des gens qui, pour Noël, ont l'intention d'acheter des produits d'occasion. Ce qui est une première. Avant, les gens, le marché de l'occasion se développe, surtout sur la voiture, bien sûr, mais le textile énormément. Mais pas pour Noël. Et là, pour Noël, oui. Et les gens des téléphones reconditionnés, beaucoup, pour des raisons de prix, soit des textiles d'occasion. Vinted est un des tout premiers sites français en nombre de visites. C'est 5 millions de visites par jour, Vinted. Donc, cette habitude est née, et c'est pas parce que c'est Noël qu'on ne le fait pas.
Ça y est, le Black Friday a acquis ses lettres de noblesse, de respectabilité. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Pierre-Henri?
Moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais comme on pense que ça va se passer. Je vous rappelle que quand même, pour des raisons évidentes, pendant le confinement, mais même après le confinement, il y avait des achats Internet avaient explosé.
Explosé littéralement, oui. La part d'Internet dans le commerce a augmenté de plus en plus.
Je pense que certains de ces acteurs ont cru que ça allait continuer, ou en tout cas rester sur le même rythme. C'est pas le cas. On voit, par exemple, Cdiscount a annoncé vraiment une baisse vraiment importante, je crois, de 30% en un trimestre de ses ventes. Donc, il y a un retour sur le mortard, sur les magasins. Et puis, l'extension, effectivement, du phénomène. Bon, ça, je pense que c'est lié à l'inflation, à toutes sortes de produits qui avant n'étaient pas dans le périmètre des soldes, C'est-à-dire qu'on solde, effectivement, des billets de train, des voitures, Alors, il y a peut-être chez Hermès, on fait pas encore de soldes, mais ça va quand même, ça prend une ampleur.
Un peu plus d'alimentaire maintenant. J'ai vu ça aussi, notamment.
Hein. Oui, un peu, oui. Ouais. Pas encore énormément.
Non, mais ça commence à.
Si vous voulez, on le voit dans les problèmes des GAFA, vous voyez, toute cette. On va pas dire qu'il y a un dégonflement de la bulle Internet, mais quand même un petit peu, quoi. La baudruche est un peu en train de diminuer de taille.
Frédéric Farah, cette grande fièvre acheteuse, comment est-ce que vous la regardez, qui commence à entrer dans les... 10 ans déjà, c'est le dixième année du Black Friday, mine de rien, en France. Ça y est, c'est...
Ce qui est intéressant, c'est... Bon, c'est plusieurs choses. Premièrement, est-ce que nous vivons dans une économie, nous le savons plus que jamais, où c'est le consommateur en dernier ressort. C'est ça qui caractérise nos économies. Comme il y a le prêteur en dernier ressort, il y a le consommateur en dernier ressort. Et dans les économies, et on parlait de la défense France-Allemagne, évidemment, nous, on a une demande intérieure profonde. Évidemment. Ce genre d'opération, évidemment, est très intéressant à observer parce que, surtout qu'on arrive vers, évidemment, les fins d'année, c'est là où c'est intéressant à la fois pour le commerce et aussi intéressant pour les consommateurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un problème de pouvoir d'achat qui est lié effectivement à ces prix qui augmentent et la question des salaires n'est pas réglée. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure des Black Friday, de voir comment les choses changent. Et on disait tout à l'heure, effectivement, sur les choses de reconditionner et autres. On voit bien qu'en même temps, même si on peut en faire une critique, ça révèle aussi des transformations des pratiques de la consommation.
C'est bon.
Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est pas, il faut pas juste raisonner en termes quantitatifs, c'est-à-dire en valeur ou les milliards ou autres, mais de voir qu'est-ce qui est en train de s'acheter, qu'est-ce qui s'achète moins. Donc, c'est-à-dire que peut-être une société de consommation qui se réorganise sur d'autres bases ou sur d'autres orientations. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire, on peut critiquer effectivement la consommation, en espérant une consommation plus durable, plus responsable, plus solidaire. Mais en même temps, on n'a pas trouvé un autre moteur à notre économie que la consommation.
C'est vrai.
Je veux dire,
contraire.
Et aujourd'hui, les ménages à plus faible revenu vivent déjà une décroissance, mais qu'ils ne souhaitent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que leur revenu se contracte, ils consomment moins, non pas par souci environnemental, mais aussi parce qu'ils sont en difficulté économique.
30 secondes. Donc, Black Friday, révélateur des tendances d'accélération, de changement des tendances de consommation.
Oui, c'est-à-dire que même pendant Black Friday ou Noël, effectivement, l'achat d'occasion reste quelque chose, augmente et quelque chose que les gens ont en tête.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut faire un Noël, mais aussi avoir des produits d'occasion. Les gens sont sensibles à ça de plus en plus. Et on a même demandé, dans l'enquête Harris, aux gens, est-ce que vous préfériez recevoir un produit neuf ou un produit d'occasion, c'est vraiment la question torture. Il y a 30% des gens qui disent « je préférerais recevoir d'occasion ». Donc, par conscience écologique. Je préférerais recevoir.
C'est énorme. C'est la mue du Black Friday. Voilà.
Beaucoup plus chez les jeunes, effectivement.
Du coup, l'occasion est de plus en plus chère.
L'occasion est de plus en plus chère.
Non, mais les neufs, le prix d'un téléphone portable neuf, maintenant, c'est quand même c'est un mois de salaire. Donc,
c'est facilement. Voilà. Oui, absolument. Et ben voilà pour ce Black Friday. On aura les chiffres en début de semaine, donc on verra un petit peu tout cela a donné. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Frédéric Farah, économiste, chercheur, enseignant à Panthéon-Sorbonne. Et François Monboise, le président de la FEVA, de la Fédération de la Vente à Distance. 18h56, dans un instant, c'est Fred Mazella. Les pionniers chez Fred Mazella qui accueillent ce soir Ty Chris. C'est dans quelques minutes après le rappel des titres sur BFM Business. Et nous, bien sûr, on se retrouve lundi, 18h, pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne soirée, bon week-end à lundi.
Good evening business sur BFM Business.